Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. Alors aujourd'hui, nous allons parler histoire et archéologie et j'en profite tout d'abord pour m'excuser du petit écho, du petit problème de son, mais comme vous le savez, je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout n'est pas encore parfaitement au point. Il y a l'éclairage, le mur de couleur verte, la bibliothèque, etc. Mais il manque encore les meubles, les gros meubles, les tableaux, etc. un peu partout. Donc voilà, je vais vous demander un petit peu de patience et de clémence pour ces premières émissions dans ce nouveau logement. Alors tout d'abord, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vos projets avancent, que l'année suit son cours et que voilà, la santé, la prospérité, etc., etc. Alors aujourd'hui, petite émission vlog pour vous parler histoire archéologie. Trois objectifs dans cette émission. Déjà, faire une petite émission plus légère, c'est-à-dire d'échange sur le sujet de l'histoire archéologie. C'est un sujet que j'ai moins traité ces derniers temps, depuis environ 2 ans. Donc voilà, c'est l'occasion un petit peu de remettre la machine en route. Le deuxième objectif, c'est de vous annoncer la mise en place donc d'une série de au moins 12 épisodes qui traiteront spécifiquement d'histoire et d'archéologie. Alors, pour être plus précis, on va parler des civilisations de l'Antiquité, de la préhistoire, proto-histoire, des mythes des civilisations disparues, Atlantide, Hyperborée, etc. J'ai déjà traité sur la chaîne, mais on va retravailler un petit peu tout ça. Et le troisième objectif de cette émission est de tenter de comprendre un petit peu comment aborder le sujet de l'histoire et de l'archéologie sur Internet, car ce n'est pas toujours évident. Alors, en préambule, attaquons directement avec une première problématique. Ça fait aujourd'hui 16 ans, qu'est sorti le documentaire ou le docu-fiction « La révélation des pyramides » de Patrice Pouyard en tant que réalisateur et de Jacques Grimaud en tant qu'informateur secret. Alors, depuis 16 ans, il s'en est passé pas mal de choses. Mais pourquoi je vous parle de ce film aujourd'hui? Vous le savez, je n'ai jamais fait de débunkage à proprement parler de ce documentaire. Je ne l'ai pas commenté outre mesure et je n'en ai pas fait de retour X ou Y. Alors, pourquoi j'en parle un petit peu aujourd'hui? C'est pas pour faire le débunkage 16 ans après, hein, ça n'a pas d'intérêt. Cela a été fait de nombreuses fois. Mais ce documentaire a provoqué quelque chose dans le paysage Internet de ce qu'on va appeler l'archéologie alternative ou l'archéologie romantique parfois, ou ce que certains vont appeler la pseudo-archéologie. Je trouve le terme un petit peu péjoratif parce que quand on met pseudo devant quelque chose d'autre, en général, c'est pas sympa. Alors du coup, je préfère le terme archéologie alternative que pseudo-archéologie. Je le trouve plus poli et plus ouvert d'esprit, peut-on dire. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que la critique ne doit pas avoir lieu. Alors, ce documentaire était excellemment bien tourné, il était joli, il présentait des sites, il posait des questions, il posait des énigmes, il tentait d'apporter quelques réponses, peut-on dire. Sauf que, évidemment, dans le bon aspect, ça a séduit assez rapidement les internautes, tous les passionnés des civilisations anciennes ont été séduits par ce documentaire, et de ce fait, on peut dire qu'il y a eu un gros tapage autour de ce documentaire. Certains, à la suite de ce visionnage, ont commencé eux-mêmes à entreprendre des recherches dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie sur les civilisations anciennes. Tenter de comprendre notre passé, en fait. Puisque vous connaissez l'adage, si l'on veut savoir où l'on va, il faut tout d'abord savoir d'où on vient. Donc là, ça prend tout son sens. Quand on a envie de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, quand on est passionné d'histoire, eh bien on a envie de comprendre quelles sont nos origines, quelle est l'histoire des anciennes civilisations, comment ont-ils disparu, pourquoi ces civilisations se sont effondrées dans certains cas, puisque si on comprend pourquoi une civilisation s'est effondrée, dans une certaine mesure, on comprend pourquoi nos civilisations actuelles vivent possiblement un effondrement aussi. C'est intéressant. Donc, il y a de multiples vecteurs qui font qu'on peut s'intéresser à ces sujets. Donc, au-delà du tapage de ce documentaire, beaucoup de personnes, des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers, ont commencé à entreprendre des recherches individuellement. Alors parfois de façon amateur, parfois on tentait de le faire de façon un peu plus professionnelle, et puis cela aboutit à la naissance de tout un tas de chaînes YouTube, de tout un tas d'autres documentaires qui sont dans la même veine. Alors on pourra penser évidemment à Bâtisseurs de l'Ancien Monde, toujours de Patrice Pouyard, sorti quelques années plus tard, on pourra penser à Mégalithe, un monde oublié de Howard Crowhurst, L'autre Terre des Dieux de Demian, ou encore K2019 de Fémy Krasnik. Ce sont des exemples, il y en a tout un tas d'autres. Là on est dans un monde francophone, hein, bien sûr, mais C'est exactement le même topo dans le monde anglo-saxon. Il y a d'autres documentaires qui ont provoqué ce type de remous. Alors, force est de constater que dans les 4-5 années qui ont suivi la révélation des pyramides, documentaire qui a fait peut-être 100 millions de vues, peut-être même plus, tout un tas de chaînes YouTube ont commencé à créer du contenu vous parlant de l'Atlantide, d'Hyperborée, des secrets historiques archéologiques qu'on nous dissimule, de possibles civilisateurs des temps anciens qui seraient les édificateurs la plupart des grands monuments de l'Antiquité. Et donc, en fait, le fond du message, c'est lequel? Dans ces documentaires et tout ce courant. Le fond du message, c'est de dire, en fait, les anciens Mésopotamiens, les anciens Égyptiens, les anciens Aztèques, Mayas, Incas, etc., etc., n'avaient pas les compétences ou la technologie pour édifier les monuments de la Haute Antiquité. Donc, ce ne sont pas eux qui les ont édifiés, ce sont des gens plus anciens. Une civilisation ou des civilisations disparues il y a très 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 longtemps, et on a la preuve, puisque en fait, le mythe du déluge, mythe que l'on retrouve sur toute la planète, eh bien de ce fait, ça nous parle d'un grand effondrement civilisationnel, d'un engloutissement par les eaux, et pas manqué, on invoque le sujet du Dryas récent. Alors, le Dryas récent, c'est quoi? C'est un phénomène géologique, climatique et tout un tas d'autres choses qui s'est produit il y a un peu plus de 10 000 ans et qui, en effet, a provoqué une montée des eaux sur la planète d'environ 100 à 120 mètres, grosso modo. Et donc, on nous dit, bah, c'est simple, en fait, avant ce Dryas récent, avant ce déluge, entre parenthèses, il y a eu une supracivilisation ou des supracivilisations qui avaient une technologie très avancée, capable d'édifier les pyramides, les grands temples aztèques, mayas, etc., tout ça. En fait, ce sont eux, c'est des monuments qui sont donc beaucoup plus anciens, et donc, cette super civilisation, elle possédait donc une technologie très avancée, possiblement supérieure à la nôtre. Ils se sont effondrés, soit dû à un phénomène climatique, soit une météorite, soit parce qu'ils se sont autodétruits entre eux. Voilà. De plus, ils étaient, et là ça devient intéressant, suivez bien, ça devient une civilisation qui était hautement spirituelle, qui avait une grande connaissance sur les sujets de l'ésotérisme, de la symbolique, etc., etc. Possiblement, on tente donc de comprendre qui étaient ces gens, quelles étaient leurs religions, quelles étaient leurs croyances, quelles étaient leurs technologies. Et ça, c'est grosso modo, en résumé, le message de toutes ces chaînes YouTube, tous ces documentaires et tout ce qui gravite depuis 16 ans. À de là, il y a une variable, la principale variable, puisque ce que je vous ai présenté là, c'est la théorie qu'on va appeler l'évémérisme. L'évémérisme qui consiste à dire en gros, eh bien voilà, vous voyez cette super civilisation, eh bien en fait, les anciens de l'Antiquité, ils s'en rappelaient un petit peu, et en fait, les dieux des civilisations antiques, les dieux comme Zeus, Apollon, Osiris et tout un tas d'autres, eh bien en fait, ces dieux, bah, c'était pas des dieux, c'était ces êtres de cette super civilisation d'avant. Donc en fait, les dieux ne sont pas des dieux, ce sont des humains des temps passés, ou des humains plus, des sortes de Marvel des temps passés, qui sont responsables de tout ça. Et qui fait que bah, les gens de l'Antiquité, ne comprenant pas cette technologie et tout ce savoir, eh bien ils ont assimilé ces personnages à des dieux. D'où l'évémérisme. La variante, l'autre approche, si l'on peut dire, qui gravite aussi depuis 16 ans, et même c'est plus ancien en réalité, mais disons qu'on en parle beaucoup plus depuis la révélation des pyramides, c'est la théorie du néo-évémérisme. Alors c'est la même chose, super civilisation, les temps passés, etc. Les dieux ne sont pas des dieux, mais d'autres personnages. Sauf que là, on dit cette super civilisation, en fait, elle vient pas de la Terre, elle vient des étoiles, elle vient de l'espace. Ce sont des extraterrestres, c'est-à-dire des êtres qui viennent d'une autre planète, qui seraient venus sur Terre il y a très très longtemps, qui auraient posé les bases de la civilisation, aboutissant à une supracivilisation terrestre, mais pilotée par des entités extraterrestres. Et puis, ils sont partis, ces civilisations se sont écroulées, et tant pis, on arrive sur, grosso modo, le même topo. Alors, cette théorie, qui gravite autour de la révélation des pyramides et de tous ces avatars, ça s'appuie sur plusieurs éléments. Ça s'appuie sur, en premier lieu, ce qu'on va appeler les anomalies archéologiques. Alors, une anomalie, c'est quoi? Une anomalie, c'est un artefact, un monument ou un texte que l'on a du mal à replacer dans son contexte. Je prends quelques exemples pour l'illustrer. Si vous allez en Grèce antique, vous faites des fouilles autour, je ne sais pas, du temple d'Apollon à Delphes, et vous trouvez, par exemple, des monnaies grecques de l'époque. Pas de problème, c'est assez cohérent. Vous trouvez des monuments archéologiques qui sont conformes au style grec de l'époque, pas de problème, tout va bien. Vous trouvez des armes qui sont typiques des hoplites de la Grèce antique, pas de problème. Et puis là, par exemple, au milieu, vous trouvez dans une strate ancienne, donc qui correspondrait, je ne sais pas, 5-6e siècle avant notre ère, vous trouvez par exemple des monnaies égyptiennes du 3e, enfin pas des monnaies du coup, parce qu'il n'y en avait pas, mais vous trouvez des statuettes égyptiennes qui semblent typiques de l'ancien empire égyptien, donc c'est-à-dire 3e millénaire avant notre ère. C'est une anomalie, c'est-à-dire ces petites statuettes égyptiennes, elles n'ont rien à faire là. Elles n'ont rien à faire là parce que chronologiquement, c'est pas très cohérent de les trouver ici. Donc c'est ce qu'on appelle une anomalie. C'est tout, on n'a rien dit de plus à ce stade. Une autre anomalie, c'est par exemple quelque chose comme la machine antisitère. La machine antisitère, c'est un artefact issu du monde grec possiblement, qui a été retrouvé dans un navire grec et qui daterait probablement du 2e siècle avant notre ère. Jusque-là, pas de problème. Sauf que la technologie présentée par cet artefact semble assez anachronique par rapport au 2e siècle avant notre ère. Alors c'est une anomalie. C'est tout. On pourrait citer d'autres choses, comme par exemple, quand on trouve, imaginons, des monuments qui ont été découpés, des pierres qui ont été découpées, et qu'on observe dans la taille de ces monuments des empreintes de coupes qui seraient, par exemple, avec des objets de fer, alors que c'est un temple qui est du 3e millénaire avant notre ère, et que le fer n'était pas connu, ou du moins la métallurgie du fer n'était pas maîtrisée à cette époque. C'est une anomalie. Alors, c'est des exemples assez caricaturaux, mais je pense que vous voyez le concept. Donc, l'archéologie alternative, comme RDP et d'autres, s'appuie sur des anomalies pour dire, vous voyez, il y a un problème avec l'histoire qu'on nous enseigne, donc, ce n'est pas la vérité. Premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils vont s'appuyer sur des ressemblances architecturales en disant, bah, voyez l'Égypte antique de l'Ancien Empire, il y a des pyramides, voilà. En Mésopotamie, les Incas, pas les Incas, mais les Aztèques, les Mayas construisent des pyramides, c'est la même forme. Tiens, c'est étrange, pourquoi sur deux continents, des divisions qui ne sont pas censées se connaître, construisent tous deux des monuments qui se ressemblent. Anomalie, encore une fois. Ressemblance architecturale. Troisième élément qui est souvent invoqué, on nous dit par exemple, vous voyez les mythes du déluge typiquement, le mythe du déluge est sur toute la planète, donc vous voyez, ça prouve l'événement, que tout le monde en a gardé un souvenir, et donc de ce fait, ça atteste que le déluge a réellement existé, et donc ça valide les autres théories préalablement. Troisième élément. Autre élément qui est possiblement invoqué, c'est l'usage des mathématiques, en nous disant, voici certains monuments de la Haute Antiquité. Si on mesure ces monuments, si on calcule un petit peu toute la conception mathématique de ces monuments, eh ben on va observer des invariants, c'est-à-dire la présence du nombre d'or, la présence de pi et de quelques autres règles numériques assez complexes. Et on se dit, bah, on les trouve dans tous ces monuments, donc c'est une preuve. Et puis pareil, on va prendre ces différentes mesures et on va aboutir que fondamentalement, l'étalon de mesure qui a permis ces monuments, ça serait le mètre. Ce qui est anachronique, puisque le mètre ayant été développé au XVIIe siècle, on se pose la question. Donc ça, c'est les arguments de l'archéologie alternative pour nous dire, bah voyez, il y a un problème, donc du coup, ça valide la théorie, avant le déluge, il y aurait eu une super civilisation, qu'elle soit terrestre ou extraterrestre, peu importe. C'est tous les éléments. Évidemment, là, ce que je viens de vous illustrer, c'est une méthode, en réalité, qui s'appelle le cherry picking. Le cherry picking, ça consiste à quoi ? Ça consiste à vous balancer une vingtaine d'informations de suite, alors je dis 20, ça peut être 10 ou 14, hein, vous voyez l'idée, plusieurs informations de suite qui semblent déjà assez complexes, curieuses, qui semblent résonner entre elles, et donc en fait je sature votre cerveau. Je sature votre cerveau en, je viens de vous dire là dans les 5 minutes précédentes, il y a des problèmes d'anomalie archéologique, il y a des ressemblances entre les monuments, il y a un codage mathématique, donc une volonté globale, des mythes en commun, et tout ceci auréolé que il y aurait un étalon mesure le mètre en plus. Boum, 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 toutes les informations ensemble, ah dit voilà, c'est quand même vachement solide cette histoire. Sauf que le cherry picking a cette fonction-là, c'est qu'il sature votre cerveau, il vous sature avec des images mentales qui fait qu'on arrive à des raisonnements assez immédiats de corrélation. En fait. Sauf que, évidemment, en histoire et archéologie, il faut prendre son temps. Alors, du coup, pourquoi cette émission, encore une fois ? L'idée n'est pas de débunker, encore une fois, toute cette histoire-là. Je l'ai fait dans d'autres vidéos. Mais je veux simplement vous amener une idée centrale qui est qu'en histoire archéologie, il faut prendre son temps. Le cherry picking est une méthode de simplification et de saturation mentale. C'est rarement une bonne méthode en histoire. C'est d'ailleurs parfaitement la plus mauvaise, d'ailleurs. Pour parler de moi en quelques instants, à titre personnel, j'ai été séduit par ce type d'approche, il y a de cela, on va dire, une vingtaine d'années. À 16 ans, encore plus avec la révélation des pyramides. Et puis quand j'ai lancé la Web TV, il y a 10 ans de cela, on va fêter le live anniversaire la semaine prochaine, d'ailleurs, on en va en parler. Eh bien, il y a une dizaine d'années, j'étais encore séduit par cette approche. Et donc, faisant mes premières recherches, j'étais séduit par ce constat de LRDP et ses avatars en disant, ah voilà, on nous ment sur le passé, il y a des anomalies, des choses qu'on ne comprend pas, donc l'histoire qu'on nous enseigne à l'école, elle n'est pas bonne, et donc de ce fait, il faut chercher ailleurs. Et du coup, j'ai fait ce que tout bon fan de la révélation des pyramides fait, j'ai été chercher les sources sur quoi s'appuie en fait la révélation des pyramides et ses avatars. Donc j'ai été lire du Colin Wilson, j'ai été lire du Graham Hancock, j'ai été lire du Robert Borvall, j'ai été lire du Robert Charroux, j'ai été lire du Blood Dio, etc. Et il y en a plein d'autres. Et puis en lisant ces textes, ils ont tous le même constat. Bon, alors, ils sont pas tous d'accord sur tout, mais ils ont le même constat. Les méchants archéologues historiens nous mentent, ils ne disent pas, ils affirment des choses qu'on ne peut pas savoir avec toutes ces anomalies. Toute l'histoire qu'on nous enseigne est fausse. Et regardez nos preuves, voici ce qui semble être une vérité cachée. Et puis, ils vous disent tous. Mais faisant de cette activité YouTube, c'est-à-dire de vous produire des vidéos à caractère historique et archéologique, et que je tentais de faire de façon sérieuse, si je me suis fourvoyé un petit peu dans ces croyances-là pendant une petite année et demie, c'est-à-dire de 2016 à fin 2017, eh bien, j'ai décidé de peaufiner mes connaissances, et peaufinant mes connaissances, je me suis dirigé vers les livres qui étaient critiqués par ces chercheurs alternatifs. Et donc, lisant ces textes, je me suis rendu compte déjà de un que je doutais très 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 sérieusement que les auteurs que j'avais lus préalablement avaient lu les livres d'histoire et d'archéologie, et du coup, j'avais une bonne part de réponse à mes questions. Puisque le premier élément de l'archéologie alternative qui est faux, enfin l'archéologie alternative des auteurs que j'ai cités hein, et de la révélation des pyramides, c'est de dire l'histoire officielle. L'histoire officielle, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Tout simplement parce que les historiens et les archéologues ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des débats parfaitement enflammés et des désaccords, mais monstrueux, dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie. Première chose, le consensus officiel n'existe pas. Enfin, l'histoire officielle n'existe pas. En revanche, il y a parfois un consensus. Un consensus, c'est quoi? C'est un élément sur lequel tout le monde est à peu près d'accord. Je vous dis bien à peu près d'accord. Prenons un exemple avec les pyramides de Gizeh, les trois grandes pyramides, Khéops, Khéphren, Mykérinos. Sans certitude absolue, la plupart des égyptologues sont d'accord pour dire que c'est dans l'Ancien Empire et que ça se situe grosso modo entre 2450 avant notre ère et 2006 avant notre ère. Mais il y a des désaccords sur les méthodes, il y a des désaccords sur les dates exactes, il y a des désaccords sur la durée de construction, il y a des désaccords sur la façon de les construire. Il n'y a pas de consensus sur ça. Il n'y a aucun consensus sur la méthode d'édification des pyramides. Comprenez-le. Il n'y en a pas. Mais il est vrai que le consensus est de dire ça se place grosso modo dans cette époque. Mais ce consensus, il peut tomber à l'eau. Il peut tomber à l'eau sous réserve de découvertes plus récentes, sous réserve de nouvelles données qui permettront de réviser le consensus. Donc un consensus n'est pas un fait absolu. En fait, l'histoire officielle n'existe pas pour une raison simple, c'est que l'histoire s'écrit en permanence. Le but de l'historien ou de l'archéologue est de s'approcher au plus près de ce que pouvait être la vérité historique. Mais la vérité absolue en histoire ne s'obtiendra jamais. On tente de s'en approcher et au possible, évidemment, d'arriver à des pseudo-certitudes, à des choses qui semblent fiables, mais l'absolu n'existera pas dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie, parce qu'on étudie le passé. Pour étudier le passé, on est limité aux sources historiques, les sources archéologiques, le mobilier, les monuments et tout un tas d'autres choses. Évidemment, avec ces quelques éléments, il faut recomposer toute une histoire complexe. C'est extrêmement délicat. Vous vous en doutez. Donc, évidemment, lisant les livres des historiens archéologues, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de réponses à mes questions. Et là, j'ai découvert aussi, en fait, que la plupart des livres d'archéologie alternative utilisaient le cherry picking. Ils vous saturent d'informations, et parfois avec des informations qui sont mal maîtrisées, et donc qui, quand vous les balance, on vous balance tous les ingrédients dans la marmite et qu'on remue un coup, ça semble joli, mais en fait, quand on regarde bien, c'est compliqué. Prenons un exemple, le mythe du déluge. En réalité, le mythe du déluge, il en existe, et alors, en archéologie alternative, on le balance à toutes les sources, il y a 460 ou 480 mythes du déluge sur la planète. C'est vrai, mais c'est quoi ces 480 mythes du déluge? Alors, il faut prendre un peu de temps pour les étudier. Prenez l'empreinte des dieux de Graham Hancock, il vous parle, il vous balance tous les mythes du déluge, mais il cite pas ses sources. Alors du coup, il faut creuser. Et quand on creuse, on s'aperçoit que sur ces 480 mythes, il y en a un peu plus de 400 qui sont des traditions orales. Des traditions orales qui ont été collectées au XXe siècle, ou au XXIe dans certains cas. Donc, qui dit tradition orale, dit pas datable. Alors on dit, oui, mais la tradition orale, c'est beaucoup plus fiable que l'écrit, ça se transmet de façon ininterrompue depuis les nuits des temps. Oui, mon œil aussi. Mon cul, c'est du poulet. Hein, voyez l'idée. C'est bien d'invoquer la tradition orale comme juste et parfaite, mais sincèrement parlant, si vous devez vous-même vous remémorer des éléments de vos enfances, vous allez avoir des petits trous. Donc la mémoire, elle s'altère. Pour plein de raisons. La courbe de l'oubli, d'autres événements qui se superposent, on bouche les trous. La mémoire, c'est comme un gruyère. Au fur et à mesure, ça se perce et on comble les manques, etc. Donc, une tradition orale évolue et se dégrade avec le temps. Comme ça, c'est tout. On n'y peut rien. Donc, une tradition orale n'est par nature pas fiable au-delà de 6 générations. Premier point. Donc, on a 400 mythes du déluge, en disant, c'est bien, mais on peut pas dire grand-chose. Ensuite, on a les mythes qui ont été écrits. Et donc, on va ceux qui ont été écrits dans l'Antiquité. On peut citer le déluge de Manu en Inde. On peut citer le déluge d'Atrasi chez les Mésopotamiens. Le déluge de Gilgamesh ou Tanapishtim, toujours en Mésopotamie. Le déluge des Hébreux, bien sûr, avec le mythe de Noé. Déluge de Deucalion, déluge d'Oxygès, etc., etc. Donc, on peut dater ces quelques éléments. En gros, on arrive qu'on a à peu près 6 ou 7 déluges écrits datant de l'Antiquité. Je parlerai de l'Asie plus tard. Et puis, on a d'autres déluges qui datent de la période médiévale, comme la légende de Is, la mort d'Ymir dans les mythes nordiques, et tout un tas d'autres choses. Mais on est sur des périodes médiévales qui ne sont pas du tout antiques. Donc, dans quelle mesure ces mythes médiévaux n'ont pas été inspirés par les mythes bibliques qui étaient déjà répandus dans les secteurs où ils ont été écrits? Eh oui, puisqu'à partir, au gré du temps, le christianisme et plus tard l'islam vont s'implanter à peu près partout sur la planète. Donc dans quelle mesure des mythes mésoaméricains, des mythes africains du déluge, qui ont été collectés par des folkloristes au XXe siècle, n'ont pas été contaminés par le mythe biblique ou le mythe musulman? C'est le syncrétisme religieux, c'est très 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 courant. Et un autre élément, donc si on s'intéresse aux mythes asiatiques, on dit, dans les mythes asiatiques, il y a au moins 70 mythes du déluge. Oui, il y a 70 mythes du déluge. Mais du coup, faites pas comme Graham Hancock. Lisez-les. Lisez-les. Et quand vous allez les lire, vous allez comprendre très très vite qu'il s'agit des inondations du fleuve jaune et de quelques autres éléments. Rien à voir avec le mythe biblique ou le mythe d'Utanapishtim. Donc en fait, le cherry picking, c'est de dire, il y a 480 mythes du déluge. Mais du coup, si on fait un travail sérieux, on va les regarder, ces 480 mythes. Et on s'aperçoit que c'est loin d'être un mythe universel, du moins sous forme écrite. Et qu'il y a d'autres vecteurs d'analyse qui peuvent amener au constat du grand effondrement ou du constat d'une grande destruction, mais c'est pas toujours par l'eau. Parfois c'est par le feu, parfois c'est par d'autres méthodes. Donc en fait, il faut pas rentrer dans la simplicité, il faut aller dans le détail. Donc, problème du cherry picking dans l'archéologie alternative. Ensuite de ça, un autre élément, c'est le recours au merveilleux. Vu qu'on ne comprend pas un monument, et il n'y a pas de honte à dire qu'on ne comprend pas, lisez les bouquins des historiens et des archéologues, il y a plein d'endroits où ils disent on ne comprend pas, ou du moins on n'a pas de réponse. On ne sait pas comment ça a été fait. On ne sait pas à quoi sert cet artefact. Vous allez trouver plein de passages dans les bouquins d'histoire d'archéologie qui vous disent nous ne savons pas, ou nous n'avons pas de réponse à un instant T sur la fonction de cet objet ou sur qui a édifié ce monument. Problème. Parfois, l'auteur se permet quelques hypothèses pour dire « je pense que » ou « il semble probable que ». Mais ce n'est pas une certitude, il semble probable que. C'est une hypothèse. Il n'y a pas de mal à faire des hypothèses. Bien sûr, c'est libre. Donc, il ne faut pas croire, beaucoup d'historiens et d'archéologues sont prudents dans leurs affirmations. Alors du coup, le recours au merveilleux dans l'archéologie alternative, ça consiste par exemple à dire « oui, alors, vu que les Égyptiens n'étaient pas capables de le faire, ou les Mésopotamiens n'étaient pas capables de le faire, c'est une super civilisation antédiluvienne des temps passés. » Alors là, c'est joli, comme ça. Donc en gros, ça veut dire qu'on avait une humanité tellement fantastique il y a 10 ou 15 000 ans, qu'il y a eu un effondrement, tout a été rasé, et puis après, c'est des hommes en peau de bête, on ne sait pas trop comment, qui ont plus ou moins hérité de tout ça, et qu'on en fait ce qu'ils ont pu. Bon, ok, on nous dit ça. Et puis, le problème étant, c'est que pareil, si on s'amuse à regarder, alors pas forcément chez les historiens, mais chez les préhistoriens cette fois, c'est-à-dire ce qui se passe il y a très longtemps, avant l'Égypte antique, avant la Mésopotamie antique, c'est-à-dire au moment du néolithique, au moment des périodes des chasseurs-cueilleurs, eh bien, ces derniers trouvent du matériel archéologique. Ils vont trouver tout un tas d'objets, tout un tas d'éléments pour tenter de comprendre comment les peuples de la préhistoire vivaient. Et ça va peut-être vous surprendre, mais ils trouvent des éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie la préhistoire et la protohistoire, eh bien, on va trouver des arcs, on va trouver des bifaces, des silex taillés, des couteaux, ou en gros simple, en pierre. Et puis on va trouver des javelots à propulseur, une sorte de bâton, une sorte de lance, qu'on accroche à un autre bâton, qu'on va propulser comme ça. On trouve même des empreintes de pas. On trouve également les premiers embryons de poterie, donc les premières traces de feu, etc. On trouve les peintures d'art pariétal, Lascaux, Chauvet et d'autres. Donc on trouve tout ça. Par contre, la super technologie des Atlantes ou des extraterrestres, ben ça on la trouve pas. Les lentilles laser pour découper du granit, on les trouve pas. Les scaphandres ou les combinaisons spatiales des anciens, on les trouve pas. Les cristaux d'énergie Goa'uld pour stocker des milliards d'informations issues des annales akashiques, on les trouve pas non plus. Donc, force est de constater que les traces d'habitat des peuples du Néolithique, on les trouve. Les traces de déplacement des chasseurs-cueilleurs, on les trouve. Leurs outillages, dans une certaine mesure, on les trouve. Mais on ne trouve pas de super technologie des temps passés. Et ça, souvent dans l'archéologie alternative, on ne met pas le doigt dessus. Alors le seul truc qui est invoqué souvent, c'est « oui, mais les méchants archéologues historiens sont payés par le système pour cacher des informations. » Devenez historien archéologue et faites votre recherche, mais faites une méthodologie cohérente. Utilisez les sources et cherchez ces sources, tout simplement. Alors ça, c'est un deuxième problème. Mais ensuite, il y a un troisième problème. Celui-là, il est très insidieux. Vous comme moi, si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné d'histoire et d'archéologie. Ça vous passionne pour différentes raisons, etc. Et ça, je vous comprends parfaitement. J'en ai fait mon travail. Et vous vous dites, oui, mais bon, quand même, tu es bien gentil, Ludovic, mais bon, tu pourras quand même pas dire qu'on ne cache pas des choses. Regarde Göbekli Tepe, par exemple, regarde Göbekli Tepe, ça remet en cause toute la connaissance de l'histoire qui nous est connue. En quoi Göbekli Tepe remet en cause toute l'histoire qui nous est connue? C'est pas parce qu'un documentaire disponible sur YouTube nous dit Göbekli Tepe, le temple qui change l'histoire de l'humanité, ça c'est un titre putaclic sur Internet, hein. Mais en réalité, Göbekli Tepe, il est connu depuis 1995. Et puis, vous savez quoi? On a même trouvé d'autres. Kararan Tepe, qui est pas très loin, c'est pareil. Village de Caramel, juste à côté. 9500 ans avant Jésus-Christ, notre premier village néolithique qui nous soit connu. 9500 ans avant notre ère. Göbekli Tepe, c'est 10 000 avant notre ère. Donc, on dit 12 000 ans, ça fait tout de suite plus fort. En fait, c'est 10 000 avant notre ère. Et donc, ça atteste d'une construction magistrale des peuples du néolithique. Et donc, c'est intéressant, parce que ça permet de repousser le début du néolithique plus loin qu'on le pensait à l'époque. Mais c'est super intéressant. Et qui c'est qui a fait ces travaux? Eh bien, c'est les historiens, les archéologues qui ont fait ces travaux. Bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, comment ils ont fait? Mais on n'a pas de certitude. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est une civilisation supranormale, atlante ou extraterrestre qui l'a fait? Non, ça veut juste dire qu'on n'a pas de certitude absolue sur comment ils ont fait. Ben c'est pas grave, on avance et on cherche à comprendre. voyez l'idée. Donc, on nommait souvent les éléments que l'on a, et donc on nous dit, voilà, je reviens à mon propos, le troisième point, c'est oui, mais tu ne pourras pas nous dire quand même ce qu'on apprend à l'école, on nous apprend l'écriture commence à Sumer, et puis ci, et puis ça, et puis la chronologie en ligne droite, et puis aussi ça, ça, truc. Oui, mais le problème, c'est que vous êtes tous comme moi, vous avez été au collège, vous avez été au lycée, peut-être certains d'entre vous ont été plus loin, avec une fac d'histoire, par exemple, et on fait 3 années de fac d'histoire. Déjà, si vous avez fait ça, vous avez vu la différence. L'apprentissage de l'histoire qu'on vous fait au collège et au lycée est contestable sur bien des aspects, mais les gens font ce qu'ils peuvent, et on vous apprend des rudiments d'histoire. On peut pas, vu la masse de données historiques qu'on doit enseigner aux gens, on ne peut pas se permettre d'entrer dans les détails de toutes ces civilisations. C'est hyper complexe. Vous vous rendez compte que le temps qu'il faut pour étudier une seule de ces civilisations, bah si on en étudie une seule en profondeur, bah ça va vous prendre, il n'y a aucun souci, ça va vous prendre toutes les années de collège et toutes les années de lycée. Évidemment. Le but du lycée, et enfin du collège et du lycée, c'est d'avoir une vision globale du passé. Alors peut-être qu'elle n'est pas enseignée parfaitement, je ne suis pas en train de vous dire l'inverse, je suis extrêmement critique envers les programmes scolaires. Mais ça n'empêche pas que le but étant de donner une culture générale. Quand on est armé de cette culture générale, on ne peut pas se prétendre un grand connaisseur. On ne peut pas se prétendre un grand connaisseur de l'histoire et de l'archéologie. On a des rudiments, tout simplement. Ensuite, quelqu'un qui fait un cursus d'histoire, il va perfectionner un petit peu ses rudiments. Mais c'est pareil. C'est pas parce que quelqu'un a fait 3 ans de licence d'histoire qu'il est devenu un expert de toutes les civilisations de la Haute Antiquité ou même de l'Antiquité tout court. Et quelqu'un qui fait un master 2 ans de plus, vous croyez que ça fait de lui un expert de toutes les visions de la planète? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font en licence d'histoire et en master? Et même en doctorat après? Eh bien, en fait, ils apprennent surtout une méthodologie. C'est-à-dire une méthode pour travailler sur les documents, sur les sources, critiquer les sources, contextualiser les sources, en gros, les bons outils de recherche méthodologique afin d'être le plus objectif possible dans leur démarche. De là à vous dire, oui, mais il y a des biais, etc. Bien sûr qu'il y a des biais, ce sont des humains. Et comme tout humain, ils sont faillibles. Le fait d'avoir fait une licence ou un master d'histoire archéologie et même un doctorat et même une thèse ne vous immunise pas à la faille, ne vous immunise pas à faire des erreurs. Bien entendu, c'est pas pour rien qu'il y a le contrôle par les pairs et tout un tas d'autres choses. Donc, je ne suis pas en train de vous dire les historiens, les archéologues se trompent jamais. Bien sûr qu'ils peuvent se tromper. Ils se sont trompés plein de fois dans l'histoire. C'est pour ça, justement, que la connaissance s'améliore et évolue au cours du temps. Ce qu'on croyait de la civilisation égyptienne il y a 100 ans est complètement caduque aujourd'hui. Ce qu'on croyait de la Mésopotamie il y a 50 ans est complètement caduque aujourd'hui. Et ce que l'on connaît de l'Égypte aujourd'hui, de la Mésopotamie, sera dans une mesure caduque dans 50 ans. C'est une évidence. Et c'est pas grave, c'est passionnant en fait cette idée-là. Donc le problème étant que quand on s'intéresse en tant que passionné à ces sujets, on a ce bagage collège-lycée à minima pour à peu près tout le monde, et puis de là, on va aller un petit peu sur YouTube, aller un petit peu quelques documentaires, la révélation des pyramides, etc. Et on pense qu'avec quelques documentaires du type la révélation des pyramides et quelques vidéos YouTube, on est équipé pour interpréter les civilisations de l'Antiquité. Ceci est faux. Ceci est faux. Ce n'est pas parce que vous avez vu toutes les vidéos d'une chaîne YouTube ou 3 documentaires sur le sujet, vous n'êtes pas un expert en histoire et l'archéologie. Et moi non plus. Donc en 2016, quand je faisais mes émissions, bah du coup, je me suis un peu trompé. Pourquoi je me suis un peu trompé? Parce que j'étais comme vous, j'avais ce cursus de base, plus évidemment pas mal de lectures, notamment d'archéologie alternative, pas mal de documentaires et autres, et j'ai commencé à faire mes premières émissions avec ce bagage-là. Et force est de constater que je me suis pas mal trompé à l'époque. Je vous ai fait des émissions de mise à jour pour corriger mes erreurs, bien évidemment, au cours du temps. Alors, ne pas être un expert, c'est pas grave. Et quand on veut s'intéresser à ce sujet, le mieux est de le faire correctement. Alors, du coup, quel est mon rôle dans toute cette histoire? Après tout, vous pourriez dire, bah oui, toi tu fais des vidéos comme tous les autres, pourquoi tes vidéos seraient plus intéressantes ou pas plus intéressantes que les autres, ou ci, ou ça, ou truc? Vous avez raison, dans l'absolu. Ne me croyez pas sur parole. C'est pas parce que je vous dis quelque chose que c'est forcément vrai. Vous auriez raison de penser ça. Je ne peux que vous inciter à ne pas me croire sur parole. Évidemment. Mais du coup, je vous explique simplement comment je travaille, quel est mon but et pourquoi je fais ces émissions. En 2018, je me suis lancé dans une série d'épisodes, 12 émissions pour être exact, qui traitaient des situations de la haute antiquité. J'ai traité dans cette série d'émissions le cas de Göbekli Tepe, j'ai traité le cas des civilisations sumériennes acadiennes, j'ai traité l'Égypte antique, j'ai traité les Hittites, j'ai traité le royaume d'Ugarit, j'ai traité les temples mégalithiques de Malte, j'ai traité l'affaire des peuples de la mer, j'ai traité, etc., etc., les Mycéniens, les Lydiens et quelques autres. Encore une douzaine d'épisodes. Cette douzaine d'épisodes, je l'ai complété et amélioré, ce qui a donné naissance à mon premier bouquin, Les civilisations oubliées, le tome 1, si je puis dire. Le tome 1, qui reprend un petit peu cette architecture de ces 12 premiers épisodes, et tout ce que j'ai développé après dans le livre, j'ai aussi fait quelques épisodes sur la chaîne YouTube. J'ai traité notamment du temple de Knossos, j'ai traité de la civilisation nuragique de Sardaigne, la civilisation tauréenne de Corse, et quelques autres encore. Le but de ces émissions était de dire, voici ce en quoi j'ai cru, voici les recherches et nos connaissances à l'état, au moment où je fais ces émissions. Et voici une vidéo de vulgarisation qui se veut accessible, qui se veut une synthèse, bien entendu. Ce n'est pas une vidéo de 20 minutes ou de 40 minutes, n'est pas une thèse. Une vidéo de 20 ou de 40 minutes est ce que j'espère être une vulgarisation éclairée pour vous donner l'équipement nécessaire pour comprendre une civilisation. Vous allez me dire, bah t'es pas tout seul à faire ça. Vous avez raison. Quel est l'élément où j'aspire, où j'espère apporter une plus-value au domaine, si je puis dire? Là où j'espère apporter une plus-value, c'est que le sujet et les domaines de ma web TV ne se limitent pas à l'histoire et à l'archéologie. Vous le savez, je traite aussi de religion, d'ésotérisme, de sciences occultes, de folklore, de mythologie. Mon but est de présenter les civilisations, pas uniquement sur leur aspect historique et archéologique, mais aussi sur leur aspect religion, mythologie et spiritualité. Puisque j'estime que pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension des civilisations anciennes, il faut aussi comprendre leur mode de pensée sur le plan de la religion et de la spiritualité. Pour moi, c'est un élément capital pour tenter de comprendre ces peuples. Et je pense que dans une certaine mesure, l'étude de leurs mythes est une très bonne porte d'entrée pour comprendre l'architecture de leur pensée et de leur système religieux, et que étudier les traditions ésotériques de ces peuples nous informe également sur des préoccupations particulières qu'ils ont pu développer. Donc je suis partisan d'une étude transdisciplinaire, pas limitée à l'histoire et à l'archéologie, mais qui va s'aider, qui va être aidée par tous ces compléments de l'ésotérisme, de la religion, des sciences occultes et tout ce que vous voulez. Attention, les éléments archéologiques ne doivent pas se substituer aux éléments historiques, mais ils vont compléter notre connaissance des civilisations. Et je pense que c'est le domaine où je peux apporter quelque chose de neuf. S'il y a des historiens et des archéologues extrêmement compétents, c'est sur eux que je m'appuie pour faire ces émissions. Mais je vais également utiliser mes connaissances acquises dans ces autres domaines pour apporter une lecture sur ces domaines plus transversaux, si l'on peut dire. C'est le but de mes émissions. Donc, je vous ai produit une douzaine d'émissions pour éclairer ces civilisations, et j'ai produit ensuite d'autres épisodes qui étaient plus complexes. Pourquoi? Parce que ma méthode de travail s'est améliorée, je suis devenu un peu plus compétent aussi au gré du temps. Donc, j'ai fait des émissions qui étaient plus longues, qui rentraient encore un peu plus dans la technique, qui sont devenues de moins en moins vulgarisées et de plus en plus techniques, si l'on peut dire. Donc je suis sorti du format 20-25 minutes pour un format 40-50 minutes. D'où j'ai fait les grosses vidéos sur les Phéniciens, sur Carthage, sur les royaumes hébreux, sur les Assyriens, notamment. Et puis, j'ai remarqué que ces émissions avaient un peu moins de succès. Alors du coup, je me suis posé quelques questions d'abord. Je me suis dit, est-ce que c'est trop lourd comme sujet? Est-ce que c'est trop lourd comme thématique? Est-ce qu'il faut quelque chose d'un peu plus vulgarisé? Donc rester sur un format 20-25 minutes. Ou alors, bah du coup, les gens se lassent, ils ont envie d'autre chose. C'est possible. Ou alors, bah du coup, vous vous intéressez à l'archéologie alternative, et vu que je ne traite pas forcément d'archéologie alternative, eh bien l'histoire archéologie fait avec la méthodologie ne vous intéresse pas, et donc vous préférez aller sur des contenus plus exotiques, on va dire, vous allez vous diriger vers des chaînes qui sont plus dans l'archéologie romantique. Vous allez aller voir des gens comme Julie Couvreur, comme Quentin Leplat, comme Oleg de Normandie, etc., qui ont une démarche qui est plus romantique ou ce que d'être ont appelé pseudo-archéologique. Pourquoi pas? C'est votre choix. Vous êtes libre de choisir un contenu qui vous convient, bien entendu. Moi, je vous explique comment je travaille et pourquoi je le fais. Après, ça va plaire à certaines personnes, ça ne plaira pas à d'autres, hein, c'est la vie, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, en commentaire, dans le chat ou autre, si vous préférez des vulgarisations un peu plus serrées, un peu plus large, on va dire, c'est-à-dire quelque chose qui va être plus court et plus incisif, plus vulgarisé donc, ou alors si vous préférez des thématiques plus techniques, un peu plus longues, où on prend le temps d'explorer tous les travers d'une civilisation avec un format plus long, 40-50 minutes. En gros, voilà. Vous êtes libre de me dire ce que vous en avez pensé et je suis là aussi pour tenter au possible de répondre à vos attentes. Pourquoi je vous pose ces questions? D'ailleurs, je vais mettre fin au premier sondage. Je vais mettre fin au premier sondage, puis on va poser un deuxième sondage après. Si je vous pose toutes ces questions, c'est parce que là, je vais amorcer un nouveau cycle des émissions des civilisations disparues, de 12 épisodes, où on va poursuivre en fait l'aventure, peut-être parfois revenir sur certains sujets qui méritent d'être complétés, et donc on va traiter voilà les civilisations de l'Antiquité, de la Haute Antiquité, mais aussi de l'Antiquité tout court cette fois-ci. Donc ça va nous occuper pas mal de temps. Tout d'abord, pourquoi ça a pris autant de temps pour faire ses suites? La première série a eu lieu en 2018, et puis en 2019, 2020, 2021, 2022, j'ai fait des émissions hors série, si je puis dire, j'en ai produit environ 2-3 par an, jusqu'en 2022, et après, en 2023, 2024, 2025, j'en ai quasiment pas fait, ou extrêmement sporadiquement. Il y a plein de raisons à ça, je vais y revenir juste après. Alors, là, petit sondage que j'avais posté. Avez-vous vu ou avez-vous tous oui, la question était super mal posée. Avez-vous vu tous mes épisodes sur les civilisations oubliées? Vous êtes 25% pardon, vous êtes 7% à avoir dit je les ai tous vus et j'ai même lu le livre, le bouquin, je fais ma promo en l'occurrence. Vous êtes 25% à dire oui, je pense. Vous êtes 48% à avoir vu seulement quelques épisodes et vous êtes 20% à avoir dit aucun. Comment ça se fait que vous avez vu aucun épisode? Attention, attention, je vous surveille. Non, il n'y a pas de mal, hein, c'est vous regardez les sujets qui vous intéressent, bien entendu. Certains d'entre vous ne s'intéressent qu'aux sujets ésotériques, sciences occultes, mythologiques, et vous n'êtes pas forcément intéressés par l'histoire archéologie, et vous êtes libre, bien entendu. Je pose un nouveau sondage, et puis ensuite on va continuer notre propos. Alors, préférez-vous? Non, je ne vais pas la poser comme ça. Quel format préférez-vous? Point d'interrogation. Boum, boum, boum. Clac, on corrige. Hop, hop, hop. Clac. Alors, format 20, 25 minutes. Clac. Format. J'écris. Comme un pied là, hop là, format 40, alors on va pas y arriver, 50, format live, et dernière question pour le sport, fait de alors, comme ça, au moins, j'aurai une vue d'ensemble. Ah, j'ai dit architecture. Logis alternative. Voilà, on lance le sondage. Vous êtes libre de me dire ce que vous préférez. Bon, évidemment, si vous êtes 10 à voter, j'en prendrai pas forcément beaucoup compte. Mais si vous êtes beaucoup, eh bien, j'en prendrai compte, en l'occurrence. Alors, du coup, pourquoi j'ai mis autant de temps à refaire des émissions, enfin, j'ai mis autant de temps avant de me relancer, de me remotiver à refaire des émissions histoire archéologie pure souche. Alors, c'est pas que j'ai rien fait en archéologie. J'ai traité, il n'y a pas si longtemps, du mythe de Babel, j'ai traité du temple de Salomon, j'ai traité du mythe de Shambhala, j'ai traité du continent de Mu, j'ai traité de Yonaguni la civilisation perdue du Yanagoni, etc. Pas du Yanagoni, du Yamatai au Japon. J'en ai fait quelques-unes. Mais je remarque que mes formats très longs vous intéressaient pas outre mesure sur la chaîne. Enfin, bon, il y avait moins d'audience que pour les anciens formats. Alors, du coup, c'est peut-être un désintérêt, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, c'est peut-être que les audiences YouTube, il y a moins de gens sur YouTube qu'avant, donc ça aussi joue, il y a plusieurs paramètres, bien entendu, donc du coup, ça m'a un peu interrogé, et j'avoue, ça m'a un peu démotivé. Ça m'a un peu démotivé. Quand je fais un sujet sur la Bible, la vidéo fait 50 000 vues, et quand je fais un sujet sur une civilisation perdue de l'Antiquité, aujourd'hui, je fais 10 000 vues. Donc du coup, à un moment donné, c'est mon travail aussi. Donc je suis obligé de faire des sujets qui vont attirer un public, un minimum du moins. Mais vous connaissez ma règle. Ça fait 10 ans. Ma règle a toujours été la même. Je ne traite que les sujets qui m'intéressent. Je ne traite jamais des sujets qui m'emmerdent. Désolé, je ne l'ai pas dit trop fort. Parce que je travaille par passion et mon but est de prendre plaisir à faire ces vidéos. Donc je traite les sujets quand ils me captivent, bien entendu. Donc, quoi qu'il en coûte, je ne vais pas m'amuser à faire des sujets qui ne m'intéressent pas pour vous faire plaisir. Ça n'arrivera pas. Mais j'ai la chance de m'intéresser assez facilement et de me passionner par énormément de choses. Donc, de ce fait, la panelle est quand même assez large, peut-on dire. Alors, donc, ça m'a un peu démotivé, cet aspect. L'autre élément qui m'a démotivé, c'est que il y avait tellement un battage depuis des années sur l'archéologie alternative. J'entends tout le temps les mêmes trucs. J'entends tout le temps rabâcher sur les mêmes fantasmes archéologiques historiques que j'avoue qu'à un moment, ça m'a pas démoralisé, c'est pas le mot, parce que je suis pas du tout démoralisé du sujet. Ça m'a pas donné envie de les traiter. À un moment donné, ça m'a pas donné envie d'aller creuser et de faire des vidéos où je vais recevoir 100 commentaires de dire « Oui, mais tu dis ça, mais j'ai lu Graham Hancock qui nous dit que le mythe de l'Atlantide, on en trouve des traces dans le temple d'Edfou. » Non, on n'en trouve pas de traces dans le temple d'Edfou. C'est un mythe de Graham Hancock, voire qu'il a écrit tout seul. Donc j'en ai marre d'entendre ces trucs-là. J'en ai marre à chaque fois d'entendre les mêmes trucs sur les Anunnakis et des dieux extraterrestres, etc. Les Anunnakis, ça veut dire « Anu », c'est le dieu suprême des Mésopotamies, et Anunnaki, ça veut dire « les fils d'Anu ». C'est le panthéon mésopotamien, et ça n'a jamais été des reptiliens. J'en avais marre d'entendre tout ça. Donc, d'avoue, ça ne m'a pas motivé. Et vu que j'étais pas motivé, eh bien, j'ai pas fait de vidéo sur ces sujets pendant un certain temps. Mais voyez-vous, l'hibernation de ces sujets pendant un certain temps m'a permis de recharger mes batteries, et je suis en pleine forme sur le sujet. Je suis de nouveau prêt à combattre et à lutter pour donner de la méthode, des sources et d'étudier sérieusement les civilisations du passé. À vos risques et périls, si vous croyez à tout un tas de choses, au risque et péril que vos croyances s'effondrent dans certains cas. Tant pis pour vous, et vous êtes aussi libre de garder vos croyances, bien entendu. L'autre chose, c'est que depuis 2 ans et demi, entre mes déménagements et tout, j'ai eu énormément un emploi du temps très très compliqué, et j'ai dû réduire drastiquement mon nombre de lectures tout court. En format base, je lis normalement à minima 2 livres par semaine. À minima. Parfois, c'est 3. Et là, j'ai été réduit à quasiment à un par semaine ou un et demi depuis 2 ans, 2 ans et demi. C'était très compliqué. Mais vu que là, je suis revenu dans une situation beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable et où je vois l'avenir beaucoup plus sereinement sur le plan de l'habitat et des déménagements, tout ça, je vais pouvoir reprendre mon rythme classique et ma méthodologie de travail naturelle. Donc, j'ai aussi le temps et la capacité technique de pouvoir explorer ce sujet. Pourquoi? Parce que les sujets historico-archéologiques nécessitent beaucoup plus d'investissement. Beaucoup plus d'investissement, puisque la recherche est plus méticuleuse. Il y a plus de lectures à faire en général pour traiter ces sujets de façon correcte. C'est-à-dire que, pour vous prendre un exemple, quand on veut traiter un sujet ésotérique, type cabale ou autre, eh bien, on va lire quelques ouvrages de référence, bien sûr, mais bon, les ouvrages de référence, je les ai déjà lus. Et puis, ensuite, on va évidemment faire des recherches sur un sujet précis, et donc on va être amené à lire des articles, des critiques et toutes autres choses. Donc, évidemment, on a une recherche, c'est pas du tout dérisoire, c'est du temps de faire une recherche sur la cabale, par exemple. Mais comprenez que les ouvrages de base, je les ai déjà lus. Et ceux que j'ai pas lus, j'en ai peut-être un ou deux de plus à lire à chaque fois. Mais quand on parle d'histoire d'archéologie, C'est une recherche vivante très active. Donc ça veut dire que si je veux vous parler de civilisation égyptienne, il faut que je me mette à jour. Parce que en 2 années, notre connaissance a évolué. La Kabbale, notre connaissance évolue, mais très lentement. Le soufisme, ça évolue très lentement. Les gnostiques, ça évolue très lentement. Mais l'histoire de l'archéologie, ça va très vite. Donc en fait, la consommation de thèses, d'ouvrages modernes d'histoire archéologie fait que bah, déjà ça coûte de l'argent de se les procurer, mais en plus de l'aspect monétaire, c'est l'aspect du temps. Et donc voilà pourquoi produire des émissions d'histoire archéologique, histoire archéologie, c'est plus compliqué. Alors évidemment, vous pourriez vous dire, bah voilà, tu prends la page wiki, tu demandes à ChatGPT de te faire un joli script pour te parler de la civilisation des Perses, allez boum boum boum, 20 minutes, on parle des Perses, on balance quelques images d'IA, et puis c'est terminé. Je peux faire ça, hein. Je peux faire ça. Mais pourquoi je m'embêterais à faire ça? Il y a plein de gens qui le font. Moi, j'ai pas envie de faire ça. En gros, j'ai pas envie de faire de la merde. Pourquoi? Parce que même si les IA sont performantes aujourd'hui, ils n'arriveront pas à vous proposer un contenu qualitatif de vulgarisation comme je prétends le faire. Peut-être qu'un jour ils le feront, mais actuellement, ils ne le font pas. C'est comme ça. Donc, si on veut faire un travail un peu sérieux, ça prend du temps. Et donc, de ce fait, maintenant, je me suis relancé. Alors, je vous en parle maintenant, mais en réalité, ça a commencé un petit peu en amont. Donc, là, à partir de juin, alors c'est pas pour demain, hein, vous voyez, c'est à partir de juin, sortira le premier épisode de la nouvelle série des civilisations disparues. Et ça va s'étaler 12 épisodes qui sortiront sur 2 années. Sous-entendu, ça sera un épisode tous les 2 mois. En fait, ça s'alternera avec une autre série que je vous mets en place qui traiteront des sociétés secrètes et des sectes. On va explorer les recoins sombres des sociétés secrètes et des sectes, parmi les pires sectes de l'humanité d'ailleurs. Mais on va pas en parler aujourd'hui. Je ferai un autre petit live vlog pour vous parler de cette autre playlist, en l'occurrence. Qui, d'ailleurs, suit un petit peu le même schéma de complexité hein, que ce que je vous parle aujourd'hui. Donc, on va faire ça aussi. Tous les 2 mois. Alors, évidemment, je vais vous demander un petit peu patience, évidemment, mais c'était pour vous informer un petit peu de pourquoi je le faisais, de comment j'allais le faire, de ce qui vous attend, et puis de pourquoi ça a pris autant de temps. Alors, je vais regarder un petit peu dans le chat si vous aviez des messages que vous m'aviez donnés. Je vous rappelle que si vous aviez des questions à me poser, il faut que vous soyez membre de la chaîne, c'est le privilège des membres souscripteurs, le privilège des membres souscripteurs que de poser des questions lors des lives. Alors, je vais aller poster le lien de souscription pour ceux qui ont le désir de devenir membre. Et ainsi, vous pourrez, si vous en avez le désir, me poser vos questions. Alors, je poste dans le chat. Voilà, c'est posté. Et je vais remonter un petit peu, voir si vous aviez quelques messages. Alors, qu'y a-t-il? Alors, là, je prends le message quand même de Histoire de Pyramide. Histoire de Pyramide, c'est un confrère. Alors, je prends son message, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Histoire de Pyramide? Bravo, Ludo. Perso, j'utilise l'IA que pour améliorer les vieilles photos et des fois les animés. Oui, non, mais l'IA, faut pas cracher dans la soupe, hein. L'IA, ça a des qualités. L'IA, c'est pratique quand on veut illustrer quelque chose qu'on n'a pas d'illustration pour pouvoir faire quelque chose. Évidemment que l'IA, c'est un intérêt. J'utilise l'IA dans mon travail. Il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, l'IA ne fait pas tout. Et donc, l'IA ne fait pas tout bien, surtout. Donc, l'IA, c'est un bel outil pour accélérer, pour gagner du temps dans certains cas, mais l'IA ne remplacera pas l'humain derrière la machine qui doit penser et mettre cet esprit critique, cette méthodologie, en fait, tout simplement. Alors, question de Ephad. Hâte de discuter avec toi, surtout si c'est du live. Eh bien, oui, mais c'est toujours aussi un petit peu la limite du live, c'est que le live, vous êtes limité en posant des questions dans le chat, et du coup, je vais aussi vous parler de systèmes où on va avoir un peu plus d'interaction bientôt. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo anniversaire des 10 ans bientôt, puisque il y a pas mal de choses qui vont changer sur la Web TV à partir de juin, en l'occurrence. Donc, je vais vous faire le topo, tout ça. Enfin la semaine prochaine pour le live de avril. Alors, je remonte un petit peu. Tiens, FL Reptile, je vais en profiter. Clac. FL Reptile, tu es condamné à être modérateur à tes heures perdues sur la Web TV. Comme ça, je prends aussi ton message. Je ne cherche aucun renfort. Ça, c'est pas un message pour moi. Mais... Claude nous dit rien vu car je suis nouvelle sur la chaîne et elle est très riche, je découvre peu à peu. Donc tu as pas vu les anciennes vidéos parce que tu débarques sur la chaîne. Eh ben bienvenue à toi tout d'abord. Alors évidemment la chaîne bah 10 ans, donc aujourd'hui il y a plus de 500 vidéos sur la chaîne. Je me doute que tout le monde ne peut pas tout voir en 2 semaines, hein, évidemment, à moins que vous fassiez que ça devant la vidéo, ce que je ne vous souhaite pas pour votre qualité et votre hygiène de vie. Eh bien, regarde les vidéos quand tu as envie, sur les sujets qui t'intéressent, bien entendu. Enfin, n'hésite pas à farfouiller, enfin, je le dis à toi, mais je le dis à tout le monde, n'hésite pas à farfouiller dans l'onglet Playlist. Vous allez sur la page de la chaîne, et vous allez dans Playlist. Et là, vous allez trouver les playlists par thème. Alors, il y a plein de playlists sur la chaîne, il y a une quarantaine de playlists sur la chaîne. Je sais, c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de vidéos, et il y a beaucoup de thèmes. Donc, à un moment, si ton truc, c'est les civilisations de l'Antiquité, il y a une playlist Civilisation Antique. Si ton truc, c'est le Moyen-Âge, il y a une playlist Moyen-Âge. Si ton truc c'est la sorcellerie, il y a une playlist sorcellerie. Et si ton truc c'est préhistoire, eh ben il y a une playlist préhistoire, etc., etc. Donc, je pense que tu pourras t'y retrouver suivant ce que tu recherches. EHPAD, toujours, question, tarte et sauce, une mise à jour. Oui, il faudra reparler de tarte et sauce. Alors, ça ne sera pas dans la série des 12 épisodes, puisque tarte et sauce, c'est un sujet que j'ai traité dans cette série, que j'ai traité de façon conforme. Et il n'y a pas grand-chose. Disons que sur une vidéo générique, il n'y a pas d'intérêt de la refaire à ce stade. Je dis bien à ce stade. Je ne dirai pas forcément ça dans 2 ans. En revanche, pour en reparler dans un cadre plus générique sur le mythe de l'Atlantide, pourquoi pas? C'est tout à fait possible, parce qu'il y a quelques petits éléments qu'on peut rajouter sur Tarte et Sauce. Alors, c'est pas tellement qu'il faut refaire mon émission qu'elle est caduque. C'est plutôt que dans une vidéo de vulgarisation, il y a plein de petits éléments qu'on n'a pas le temps de dire, qu'on n'a pas le temps d'explorer. Oui, en effet, on peut aborder tous ces éléments un petit peu de détail dans des émissions live, par contre. Donc, on parlera de tarte et sauce dans tous les cas. Alors, je remonte. Elodie, bonjour Elodie, coucou, je suis à l'heure pour une fois, haha, content de pouvoir écouter en direct. Eh bien, bienvenue à toi, Elodie. Je prends les questions en sens inverse, je remonte au début. Archéologia et la librairie archéologique sont un bon moyen de se tenir au courant des avancées. Par contre, le vocabulaire très scientifique peut être difficile pour certains. Alors, tu touches aussi un point, c'est que une chaîne comme Yamien a pour but de la faire de la vulgarisation. Donc, le but est de rendre accessible parfois un contenu complexe, notamment parfois, comme tu l'as dit, les sources universitaires sont parfois un peu verbeuses, avec un langage un peu technique. C'est pas forcément extrêmement simple. Alors les plus courageux vont y aller, hein, je vous invite à le faire, mais parfois les gens n'ont pas forcément envie de s'imposer ces lectures. Et en ce sens, je considère que mon rôle est de pouvoir proposer en vulgarisation quelque chose de digeste sans en ubériser le contenu. Donc je m'estime un peu comme un intermédiaire parfois entre le monde universitaire et l'auditoire, en fait, pour ceux qui veulent accéder au concept sans accéder. Une compréhension de base assez globale, sans pour autant lire les traités universitaires. Je remonte un peu plus haut. Il n'y avait pas d'autres questions plus haut, alors du coup, je vais aller tout en bas. Alors. Ça, je suis d'accord. Donc, il n'y avait pas trop d'autres questions à ce stade. Il n'y avait pas trop d'autres questions à ce stade. Donc, hop là, je regarde ça. Voilà, ça, c'est bon. Il me semble avoir tout vu. Alors, maintenant, voyons le résultat du sondage. Alors, où en est-on? Où en est-on du sondage? On y met fin. Les résultats apparaissent. Alors, quel format préférez-vous? Vous avez été 73 à répondre. C'est pas énormément, énormément, mais ça donnera une première piste de lecture. Alors, vous êtes 59% à préférer les formats 40-50 minutes, donc les formats longs. Vous êtes 22% à préférer les formats live, les formats très longs. Et vous êtes 14% à préférer les formats courts, 20-25 minutes. Et vous êtes 5% à me demander de faire de l'archéologie alternative. Bon. Si on met format live et format 40 minutes, on arrive quand même à une grosse, grosse majorité de gens qui préfèrent les formats travaillés et les formats plutôt longs. Bon, je vais vous dire sincèrement, ça me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir? Ça me fait plaisir pour deux raisons. La première raison, c'est que bah, peut-être qu'on est moins nombreux à regarder enfin, peut-être que vous êtes moins nombreux à regarder ce type de format, mais ça veut dire que vous avez envie de complexité. Vous avez envie de format un peu plus travaillé, vous avez envie d'avoir une connaissance un peu plus technique, et puis bah, du coup, je suis très content parce que ça veut dire que vous êtes avide de connaissances, vous avez envie de pas rester sur la surface, et donc ça me fait plaisir. Je suis pas surpris outre mesure parce que c'est un peu l'identité de la chaîne. Alors c'est pas pour être prétentieux à dire ça, mais disons que quand un vidéaste fait un contenu, enfin, fait une ligne éditoriale, il va tenter de cibler sur comment il va communiquer avec son public. Et moi, mon positionnement, du moins mon désir, c'est mon objectif, j'espère le réaliser, mais c'est du moins mon objectif. J'ai pour but de me mettre dans une vulgarisation qui n'est pas une vulgarisation basse, mais une vulgarisation haute. C'est-à-dire que mon but, dire, OK, on est dans la vulgarisation, mais on va montrer que c'est compliqué. Alors qu'il y a de la vulgarisation plus accessible, plus format clé en main, avec par exemple de l'humour. Moi, je fais pas beaucoup d'humour dans mes émissions. Je fais deux, trois blagues, mais c'est juste mon tempérament. C'est pas des blagues qui sont travaillées. Quand je fais un script écrit, vous avez vu, j'écris pas de blagues. J'écris pas de blagues parce que j'estime que c'est du temps perdu sur 40 minutes. Mais il y a des vidéastes qui font des blagues pour pouvoir captiver le public, donner vie à la situation et toucher un peu plus de gens. C'est pas une critique, encore une fois. C'est un type de format. Et bah moi, je m'axe plutôt sur quelque chose où on dit, voilà, on a 40 minutes et on va utiliser ces 40 minutes. C'est ma ligne éditoriale. Et donc, je suis content si vous abondez plutôt en ce sens. Bah, ça veut dire que c'est cohérent, enfin que en fait ma ligne est cohérente avec le public du coup. Donc, en ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que bah, en fait, ça me fait plaisir de pouvoir exprimer tout ça. Parce que plus je vais faire un format long, plus je vais pouvoir, moi, pousser la recherche, pousser mon exigence. Donc, c'est une exigence à moi-même. Donc, en fait, grâce à vous, d'une certaine façon. Bah, je me pousse à l'exigence. Donc en fait, ça me stimule. Si vous me demandiez de faire des vidéos de 20 minutes, bon ok, bah, du coup, je vais lire deux bouquins, je vais faire une vulgarisation de 20 minutes, et puis je vais pouvoir enchaîner les épisodes, ah, je vais vous en faire plein. Je pourrais vous en faire un tous les mois. Si je fais des formats 20 minutes en histoire archéologie, je peux en faire tous les mois. Si je fais des formats 40 minutes, c'est tous les 2 mois. C'est logique. Donc je suis content que ça abonde en ce sens, puisque c'est encore une fois cohérent avec mes désirs. Et mes plaisirs. Donc, en fait, nous sommes d'accord. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Alors maintenant, de quelles sont les civilisations que nous allons aborder? On en a traité pas mal sur la chaîne. Il y a certains sujets, on y reviendra forcément, hein, c'est évident. Mais du coup, je vais vous demander, dans le chat, dites-moi, quelle civilisation vous avez envie que je traite. Alors du coup, je ne vais pas faire un sondage, parce que si je fais un sondage, je vais vous mettre une sélection limitée de civilisations. Or, bah, c'est pas intéressant, parce que si je limite le choix, je limite le choix, bah, du coup, vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc là, bah, dites-moi dans le chat, dites-moi le nombre des civilisations que vous aimeriez que j'explore. Alors, je ne vous promets pas que ça sera le cas, seulement je vais voir s'il y a des récurrences, je vais voir s'il y a des choses qui reviennent tout le temps dans vos opinions. Et du coup, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? En attendant, pour vous épargner quelques opinions, évidemment, vous vous doutez, si je fais cette émission aujourd'hui et que j'annonce la série à venir, c'est qu'il est clair et net qu'il y a des épisodes qui sont déjà bien avancés. Fatalement. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des sujets que j'ai déjà décidés. Mais on a 12 créneaux. Sur ces 12 créneaux, sachez que seuls 4 sont remplis actuellement. Et quand je dis 12, si ça marche, en fait, ça dépend de vous après. Si la saison 2 marche bien, comme je le désire, bah, il y aura une saison 3. Si la saison 3, il y aura 12 épisodes aussi, et ça nous prendra encore 2 années. Allons-y, il n'y a aucune limite avec tout ça. C'est vous qui définirez si la série doit se poursuivre comme elle l'est, ou si bah, ça marche pas, et dans ce cas, on fera une autre forme, tout simplement. Donc, sur ces 12 épisodes prévus, il y a 4 places qui sont prises. Sur ces 4 places qui sont prises, il y a, déjà je vous le dis d'avance, la civilisation des Perses. La civilisation des Perses, ça sera pris. Pourquoi? Parce que j'ai quand même traité la Mésopotamie très ancienne, donc Sumer-Akkad. J'ai traité des Assyriens. Alors, j'ai pas encore traité la période Kassite. Alors, je l'ai traité dans des émissions longues en live, mais j'ai pas fait une émission spécifique sur les Kassites. On pourrait aussi, mais vu que j'ai fait les Assyriens, c'est une grosse part de l'histoire de Mésopotamie. Ensuite, je vais traiter des Perses, parce que les Perses, c'est une sacrée, sacrée part de l'histoire de la Mésopotamie. Et ça va bien faire écho avec la vidéo que j'ai fait sur les Assyriens avant, avec la vidéo que j'ai fait sur les Hébreux, avec la vidéo que j'ai fait sur les Phéniciens et les Phocéens, etc. Donc ça va être pas mal. Donc du coup, les Perses, ça c'est déjà en cours des préparations. Une autre civilisation qui est en cours de préparation, elle est moins connue, mais c'est dommage, c'est la civilisation de Élam, les Élamites. Pourquoi? Parce que c'est une des trois premières civilisations à avoir inventé l'écriture, si je puis dire, qui nous soit connue, en même temps que la Mésopotamie et enfin que Sumer, Akkad et l'Égypte. Donc on va traiter du royaume des lames, et ça va pas mal, et je vous avoue que c'est pas la plus simple à traiter. Mais c'est en cours de préparation, donc ça va se faire. On va traiter aussi des Thraces, les royaumes des Thraces. Alors on va pas se limiter au royaume Thrace en tant que tel, mais on va aller chercher l'origine des Thraces, on va chercher d'où ils viennent, comment ils sont arrivés, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs spécificités culturelles, quelles sont leurs relations avec tout le monde mésopotamien, enfin pas mésopotamien, mais d'Asie et d'Europe de l'époque. Donc les Thraces, ça va nous occuper un bon petit moment aussi. Donc ce n'est pas des sujets extrêmement simples que sont le royaume des Lames et les Thraces. Les Perses, c'est moins compliqué. C'est moins compliqué, mais nous, on va aller creuser. On va aller creuser dans les spécificités religieuses des Perses, l'influence culturelle du monde perse et toute la géopolitique de l'époque. Ça va être intéressant. Mais sinon, au niveau technique pur, les Thraces et les lames, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, je vais aller dans le chat et voir un peu ce que vous me dites. Précisons, hein, je l'ai pas dit, mais cette civilisation, les civilisations disparues, on parle de l'Antiquité ou de la préhistoire-protohistoire. On ne parlera pas du Moyen Âge dans cette série. Si je fais des émissions sur l'histoire médiévale ou les temps modernes, ça sera hors de cette série d'émissions. J'ai des émissions prévues sur le Moyen Âge notamment. J'ai prévu quelques émissions. Mais ça comptera pas dans la série des civilisations disparues. Les civilisations disparues, au sens disparues depuis longtemps, ça sera uniquement l'Antiquité ou antérieure à l'Antiquité. Ça peut aussi être des situations mythiques, bien entendu. C'est tout à fait possible qu'on les explore. Donc, voilà. Donnez-moi des idées. Alors moi, j'ai déjà une liste d'idées, mais je regarde ce que vous souhaitez. Alors, Meyung qui arrive, bonsoir à toi. Jaya, je ne t'avais pas encore vu. Coucou à toi, Jaya. FL Reptile nous dit, choix difficile pour les formats, ça peut dépendre des sujets. Certains sont bien courts, d'autres en débat ou en live, mais j'ai une préférence pour le long. Alors oui, il est évidemment que tu as raison dans ton raisonnement, il faut pas être sectaire. Il est évident que des fois, un format court, c'est très bien. Quand je fais une émission, par exemple, j'ai fait des émissions sur la pile électrique de Bagdad, enfin le mythe de la pile électrique de Bagdad, sur la carte de Piri Reis, sur les temples de Baalbek. C'est des émissions format 20-25 minutes, c'est très bien, parce qu'on étudie un sujet très spécifique. En soi, on peut être technique et précis en 20-25 minutes, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, quand on veut traiter toute l'histoire d'une civilisation qui s'étale sur plusieurs siècles ou parfois millénaires, je préfère un format long, en l'occurrence. Mais la série des civilisations disparues ne traitera pas d'un artefact ou d'un temple, ça traitera vraiment d'une civilisation ou d'un peuple, en l'occurrence. Donc c'est des sujets qui, de facto, peuvent facilement se traiter dans un format long, en fait, tout simplement. Après, les formats live, ils ont pour but d'être transversaux. Si je fais une émission, par exemple, d'histoire archéologie en format long, je vais pas faire une émission, par exemple, live sur les Perses, mais je vais faire une émission format long sur la géopolitique de l'Antiquité, du temps des Perses. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, de travailler tout un tas de sujets transversaux. Je pourrais faire une émission live, par exemple, sur la chute de l'Empire romain, spécifiquement, en live, parce que c'est un sujet qui va faire intervenir énormément de peuples et énormément d'intérêts historiques. Voilà pourquoi le format live, en général, ne se concentre pas sur une civilisation, mais va traiter plutôt une époque, une période, un contexte, ou un sujet thématique central qui va faire intervenir plusieurs civilisations. Voilà, c'est la petite différence, peut-on dire. Alors, ensuite, je regarde ce que vous m'avez dit. Ça, c'était sur le choix des sujets. On m'a dit les Bantous, on m'a dit les Garamantes, on m'a dit la civilisation des Khmers. Alors, les Khmers, c'est pas l'Antiquité. Les Khmers, c'est le Moyen-Âge. Du moins, en comparaison Europe, c'est le Moyen-Âge. Moyen-Âge et même temps moderne. Les Élamites. Alors, les Élamites, c'est en projet, donc ça n'y a pas de souci. Civilisation amazonienne du Brésil ou afro-brésilienne. Brésilienne, oui, civilisation brésilienne antique, ou du moins qui remonte à des temps anciens, mais afro-brésilienne, ça sera moderne. Les Étrusques, c'est déjà fait. Cherche dans la playlist civilisation antique et tu trouveras une vidéo de 40-50 minutes sur la civilisation des Étrusques. L'Héladique ancien. Ouais, ça c'est intéressant. Civilisation minoenne. Civilisation minoenne, c'est déjà fait. Tu vas dans la playlist civilisation antique et tu trouveras une vidéo sur la civilisation minoenne. En dessous, on me dit civilisation celtique. Civilisation des Celtes, c'est déjà fait. Toujours pareil, même playlist civilisation antique. La Bactrie. Ouais, c'est intéressant, je note. Les civilisations pré-grecques. Les civilisations pré-grecques, je les ai faites dans une certaine mesure puisque j'ai traité des Minoens et des Mycéniens, mais il en reste d'autres, par exemple, civilisation des Cyclades, etc., qu'on peut faire. L'âge du bronze ancien. Ça, c'est un format générique, ça serait plutôt live. Une mise à jour sur les peuples de la mer. Alors, mise à jour sur les peuples de la mer, c'est pareil. À l'état, il n'y a pas de correctif majeur à faire sur ma vie. Vidéo sur les peuples de la mer, j'ai dit, il n'y a pas de correctif majeur. Si je parle des peuples de la mer, ça sera dans une thématique plus large de la fin de la période du bronze ou de l'effondrement du bronze. Ça mériterait plus une émission live qui traitera notamment de cette thématique plutôt qu'une émission dédiée. Une vidéo sur les Anasazis ou l'Indus. Alors oui, une civilisation sur la vallée de l'Indus, je l'avais en projet. Ça faisait partie des trucs qui me semblaient intéressants de traiter. Civilisation de la vallée de l'Indus, c'est quasi sûr que je vais le faire. Et les Anasazis, alors c'est possible, mais c'est une civilisation plus récente, donc ça sera. Ça peut se comprendre comme civilisation disparue, puisqu'on est dans le monde mésoaméricain. Donc oui, les Anasazis, ça serait pas inintéressant aussi. Civilisation du Pacifique, je ne parle pas de Mu, mais de la préhistoire, Polynésie, Mélanésie, etc. Oui, il y a des trucs intéressants sur. Bon, j'ai déjà traité les peuples polynésiens sur le plan des mythes, mais une civilisation spécifiquement sur l'histoire des Polynésiens pourrait être intéressant, si c'est des idées intéressantes. Chute de l'Empire romain et période hellénistique. Alors, période hellénistique, c'est une grande question que je me pose. La civilisation hellénistique, c'est-à-dire la civilisation de la Grèce antique, est sûrement celle que je maîtrise le mieux. Et paradoxalement, je ne vous ai jamais fait d'épisode sur l'histoire antique de la Grèce. À ça, il y a plusieurs raisons. La première raison est qu'on est inondé de documentaires de qualité extrêmement variable sur la Grèce. Et l'idée, c'est que si je vous fais des épisodes, la question que moi, que je dois me poser personnellement, c'est quelle est la plus-value que je vais apporter? Est-ce que ma vidéo apporte quelque chose de plus? Puisque si je vous fais des vidéos mais que vous trouvez 50 fois la même sur YouTube, n'y a pas trop d'intérêt. Je prends quelques exemples. Ma vidéo sur Mu, le continent perdu de Mu, la légende de Mu, je peux me tromper, hein, je pense qu'elle est originale. Je pense qu'elle est originale ou je pense que ce sujet n'a pas été traité de cette façon-là. Donc, en soi, ma vidéo apporte quelque chose. Ma vidéo sur Tarte et Sauce. Sur Tarte et Sauce, je pense qu'elle apporte quelque chose. Il y a d'autres gens qui ont fait des vidéos sur Tarte et Sauce, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur l'Atlantide, mais je pense que ma vidéo sur Tarte et Sauce apporte quelque chose de neuf, même aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Ma vidéo sur les Assyriens, la Syrie, il n'y a pas beaucoup de documentaires qui ont été faits sur la Syrie, je pense que ma vidéo apporte quelque chose. Voilà. Pas de problème avec ça. Je pense. Peut-être que non, hein. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont fait la même chose. S'ils l'ont fait après moi, du coup, ma vidéo apportait quelque chose et d'autres gens ont imité. Mais si c'était avant moi, je l'ignorais peut-être tout simplement. Donc, mon but est de faire des vidéos qui apportent quelque chose. Donc, sur la Grèce, Est-ce que je peux apporter quelque chose de nouveau? Au niveau précision historique archéologique, je pense pouvoir faire quelque chose d'assez bien calibré. Mais si c'est pour se limiter à l'histoire archéologique un peu froidement, je pense que ça sera très réduit de ce qui a été dit dans des documentaires. Alors du coup, moi mon idée pour traiter de la Grèce, c'est déjà de le faire en deux épisodes. Un qui traitera de la Grèce archaïque et un qui traitera de la Grèce classique. Et même un troisième qui traiterait de la Grèce hellénistique, c'est-à-dire à partir d'Alexandre. Faudrait le découper en trois épisodes. Et l'idée, ça serait de faire des vidéos mixtes, c'est-à-dire immersion dans la Grèce antique, où on va parler à 50% de l'histoire à l'archéologie et à 50% des systèmes de croyances, des mythes et de toute la construction de la pensée grecque, c'est-à-dire de la philosophie. Donc du coup, je ne veux pas inclure mes épisodes sur la Grèce dans la civilisation, les civilisations disparues, parce que la civilisation grecque est tout sauf disparue, c'est la matrice de notre monde actuel. De notre monde actuel au sens de notre monde européen actuel, j'entends. Et donc en ce sens, mes vidéos sur la Grèce, je ne veux pas les inclure dans cette série, je veux vraiment qu'elle dépasse le cadre d'une simple étude historico-archéologique et qu'elle puisse aborder tout l'aspect du monde philosophique grec. Donc en soi, ça serait pas du tout la même approche. Et là, je pense que je pourrais apporter une plus-value, puisque des documentaires sur la philosophie grecque, vous en trouvez plein. Des documentaires sur l'histoire grecque, vous en trouvez plein. Je pense trouver un truc qui va se mettre au milieu et apporter quelque chose de sympa. Si vous entendez, il y a mon chat qui se plaint, puisque je crois qu'il attend l'heure de sa pâtée. Ça tombe bien, nous avons presque fini l'émission pour aujourd'hui. C'est le dictat du chat, hein. C'est lui le patron. Donc du coup, c'est lui qui définit un petit peu les horaires, comme vous voyez. Mais on a encore quelques minutes où il va devoir supporter l'attente. Donc voilà pourquoi la Grèce, ça fera pas partie de cette série. Voilà. Alors l'Empire Kouchan, je note, c'est une idée intéressante. Civilisation néandertalienne. Alors ouais, néandertalien, ça peut être sympa. Pas dans cette série, je pense, parce qu'on est vraiment dans la préhistoire, là. Du coup, je pense pas le traiter dans les civilisations disparues, mais plutôt dans un épisode indépendant pour voir un peu ce qu'on doit à Néandertal au cours de l'histoire. Voilà, ça serait une idée que je pense sympa. Je pense avoir vu Éthiopienne, civilisation néandertalienne, ça je l'ai lu. Je vais prendre ce commentaire parce qu'il est rigolo. Mon doigt, je vais pas citer tout ton pseudonyme. Bon, je suis arrivé en retard et je me barre. Au vu des 20 premières minutes, pour moi, tu as surtout peur que YouTube bloque ta chaîne. Non mais t'es sérieux dans ton commentaire. Non mais sérieusement, je suis pas de bol, ça va tomber sur toi. On va voir ton petit costume. En quoi j'aurais peur que YouTube bloque ma chaîne en parlant de civilisation archéologie alternative de l'Atlantide des extraterrestres? Sincèrement. Vous avez le nombre de contenus et de chaînes YouTube qui publient de la merde, qui vous proposent des délires archéologiques et des délires historiques qui dépassent la voie lactée niveau bêtises humaines et absurdité et qui permettent de douter de l'existence de leur quotient intellectuel aux personnes qui produisent ce contenu. Et leurs chaînes ne sont pas bloquées. Ils ne sont pas bloqués, ils ne sont pas censurés. Ils sont même monétisés. Alors franchement, l'argument « tu as peur que YouTube bloque ta chaîne si tu pars des vrais secrets qu'on nous cache », c'est un argument complètement foireux. Je suis désolé de ne pas te faire plaisir, mais tu te plantes très très lourdement. Pourquoi je ne fais pas des vidéos d'archéologie alternative? C'est tout simplement parce que je ne vais pas vous dire de la merde pour vous faire plaisir. Mon but est d'être honnête. Et qui dit honnête, dit vous partager mes recherches à l'état de mes connaissances à l'instant T. Ça veut dire aussi que je peux me tromper à cet instant T. Mais du coup, je ne vais pas vous vendre une soupe qui va me rapporter des vues et qui va me rapporter des sous. Ben oui, il ne faut pas croire, c'est du business tout ça. Vous croyez franchement, vous n'en avez pas marre des chaînes YouTube qui vous proposent toutes les deux semaines une nouvelle vidéo sur l'Atlantide où ils vous racontent les mêmes banalités. Faites une expérience un jour. Allez lire la page wiki de l'Atlantide en anglais. Juste en anglais. Et vous allez voir, franchement, où ils vont chercher leur contenu. Parce que franchement, vous regardez les théories sur l'Atlantide, vous regardez les épisodes YouTube de certaines chaînes. Vous regardez des gens, des vidéastes qui arrivent et disent « Oui, on a fait des découvertes qui vont changer le truc de l'histoire. » Ouais, oui, c'est bon, ils ont trouvé un livre de Robert Charroux et ils ont répété un chapitre du livre de Robert Charroux qui a été écrit dans les années 50 ou 60. Sérieusement, vous n'avez rien révolutionné du tout. Vous réchauffez une soupe des années 70, quoi. Voire avant, même. Certains vont reprendre du gras Mankoc, parce que c'est en anglais, tout le monde ne l'a pas lu, et vont remettre une soupe gras Mankoc. Alors, sincèrement, arrêtez de croire que l'archéologie alternative est censurée sur YouTube. Arrêtez de croire que les chaînes sont bloquées pour ces trucs-là. Ça fait du business. Et si ça fait du business, ça fait plaisir à YouTube. Vous savez, YouTube n'a pas d'âme. C'est pas une critique quand il s'agit de YouTube, c'est une entreprise. Le but de YouTube, c'est de faire du pognon. Et donc, qu'il y ait des vues. Et pour qu'il y ait des vues, faut que ça plaise. Alors, les gens, quand on leur parle de civilisation fantastique, de secrets qu'on nous cache et de complot mondial, eh bien, ça marche. Et c'est des gens qui font beaucoup plus de vues que moi, en l'occurrence. Tant mieux pour eux. Pas de problème. Mais, si vous voulez mon point de vue tout à fait personnel, ce sont des businessmen et pas du tout des chercheurs indépendants qui se battent contre le système. Pour moi, ce sont des gens qui ont trouvé une manne financière en faisant de la vue, et en faisant plaisir, et en jouant sur la crédibilité des gens. Tout simplement. Alors nous allons terminer sur ces bonnes paroles, puisque comme je vous l'ai dit, c'est l'heure de nourrir mon chat. Je m'en excuse, mais je me dis que l'émission ferait 1h20, c'était un petit peu le projet. Alors donc c'était une petite émission vlog, assez détendue. Assez détendu. On se retrouve de toute façon mercredi pour une émission en montage, une émission qui a été tournée, une émission qui sera longue puisque c'est une émission qui fera 50 minutes. Et oui, j'aime les formats un petit peu travaillés où on va explorer la fête de Pâques. On va parler des origines de Pâques, de l'histoire de Pâques, de comment tout ceci s'est goupillé dans l'histoire. On va parler des ancêtres, des inspirations, de qu'est-ce qu'on célèbre réellement à Pâques, pourquoi, comme, etc. Donc, on va décortiquer Pâques dans tous les aspects. Et ça sera mercredi à 18h. Et la semaine suivante, la semaine prochaine, le 8 avril, c'est ça, le 8 avril, eh bien, je serai en direct pour une longue soirée avec vous, puisqu'on va célébrer les 10 ans de la Web TV. C'est le live anniversaire des 10 ans. Mais il ne s'agira pas simplement de vous dire coucou, on est content, on va boire un coup, on va fêter ça. On va essayer d'optimiser un petit peu ce rendez-vous pour faire un petit peu le bilan déjà de ces 10 années, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Je vais vous expliquer trois choses que je pense avoir jamais fait, un peu plus personnelles. La première chose, c'est que je vais vous parler des origines de la Web TV, comment est venue l'idée de créer cette chaîne, d'où ça vient. Comment je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait, premier point. Ensuite, je vais vous parler de mes croyances et de mes doutes personnels, ce que je n'ai jamais fait directement. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce en quoi j'ai cru, ce que j'ai douté, ce en quoi je crois aujourd'hui et ce que je ne crois plus et ce que je ne sais pas. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Et puis ensuite, vous aurez la parole, c'est-à-dire que je vais prendre évidemment pas mal de vos questions. Et on va tenter de répondre un petit peu comme une FAQ, bien entendu. On va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, des changements qui vont s'opérer à partir du mois de juin. On va parler de l'évolution de la Web TV, du visage que je veux donner à la Web TV dans l'avenir. Alors, il n'y a pas de changement sur les lignes éditoriales, hein, il n'y a pas de changement sur les thèmes que j'aborde sur la Web TV, mais on va être obligé de changer des petites choses. Quand je dis obligé, c'est parce que bah, le monde change et il faut savoir s'adapter. Donc, il y aura quelques petites évolutions. Voilà, j'attendais depuis un certain temps de pouvoir être installé dans mon nouveau logement pour mettre en place ces évolutions, parce que je vais avoir un cadre totalement différent et beaucoup plus pratique pour faire les tournages et beaucoup plus pratique pour faire les émissions live. Donc je vais pouvoir faire plus de live, plus souvent. Je vais pouvoir mettre en place les projets que je prépare. En fait, il y a des projets que je veux mettre en place depuis 2 ans, hein, et que je ne pouvais pas mettre en place de façon optimale. Moi, j'aurais pas pu les tenir. Donc voilà pourquoi je ne les ai pas mis en place, mais là on va les mettre en place en l'occurrence à partir de juin, tout simplement. Donc merci à tous en tout cas d'avoir été présents pour cette petite émission vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses, peut-être pas, mais en tout cas que ça aura poussé matière à la réflexion, vous aura donné envie de voir ces futures émissions à venir. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu les émissions des civilisations disparues, eh bien, vous avez en tout une vingtaine d'émissions qui traitent d'histoire de l'Antiquité, sur la Web TV. Donc si ça vous passionne, allez les voir. Ça vous mettra à jour, si je puis dire, pour les émissions à venir. Vous avez aussi pas mal de formats live, hein, des émissions de 2-3 heures sur l'Égypte, sur la Mésopotamie, sur la Corse, sur mes mises à jour, c'est-à-dire quand j'ai corrigé mes propres vidéos passées. Vous avez pas mal d'émissions en ce sens. Donc si vous avez du temps et que vous avez l'envie, ça peut vous occuper des soirées, puisque c'est une émission longue, donc vous avez matière à rattraper votre retard si vous ne l'avez pas fait. Encore une fois, pour terminer, je vous... Ah oui, non. J'oublie, petite annonce. Je serai en conférence jeudi 9 avril à Toulouse, à l'Utopia de Bordeaux-Rouge, hein, au nord de Toulouse. Il va y avoir la diffusion d'un... d'un documentaire. Alors, c'est un documentaire sur le satanisme, sujet assez peu commun, vous en conviendrez. C'est un documentaire sur l'histoire du satanisme en France, le satanisme contemporain en France, qui va aller à la rencontre de certaines personnes qui se revendiquent de ce courant. Et moi-même, je proposerai une conférence à l'issue afin de présenter une sorte d'historique de la démonologie, une historique du satanisme, une historique des gens qui pratiquent la magie noire pour tenter de comprendre qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors je précise, il ne s'agit pas de faire la promotion du satanisme, bien au contraire, il s'agit de comprendre pourquoi des gens se revendiquent de ce courant, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils y croient, quels sont leurs rituels, c'est quoi la magie noire pour eux, pourquoi ils en font, qu'est-ce que la démonologie, d'où ça vient, comment ça marche, etc. Voilà. Donc en fait, ça sera comme on fait d'habitude sur la Web TV, on va essayer de tenter de mettre un peu de précision sur des sujets extrêmement compliqués. Donc, il y aura la projection du documentaire à 20h, et la conférence fera une quarantaine de minutes, et suivra la projection du documentaire. Donc si vous n'êtes pas loin de Toulouse, ou vous êtes là sur ces dates, eh bien vous pourrez venir me rencontrer. Donc c'est jeudi 9 avril à 20h au cinéma Utopia Bordeaux-Rouge, au nord de Toulouse. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, le meilleur pour vous et pour vos proches, et je vous donne rendez-vous mercredi pour la vidéo sur Pâques, et la semaine prochaine pour l'anniversaire des 10 ans de la Web TV. Encore une fois, des gros bisous, et à très bientôt.